que la Torah est Torah Emet. Il y a un Dieu de vérité en Israël. Après ça, Naaman y rentre chez lui. Non, Elisha, il a un shamash. Il a un shamash qui s'appelle Gehazi. Et son shamash, lui, quand il voit l'or, il a les yeux qui tournent. Donc, il se demande pourquoi le prophète ne veut pas prendre l'or. Il lui donne les cadeaux, pourquoi pas. Et il poursuit, il court après Naaman. Il lui dit, mon maître, il y a des gens qui viennent d'arriver, qui ont besoin d'argent, etc. Tu peux leur donner quelque chose. Donc, il prend. Et Naaman est heureux de lui donner. Donc, il prend et il lui donne de l'or, des vêtements. Et Gehazi ramasse ça et les cache. Quand il revient chez Elisha, il lui dit, où tu étais? Il lui dit, non, j'étais là. Il dit, non, non, je sais, tu peux te cacher de moi. Je sais où tu étais. Et il lui dit, tu es parti récupérer l'argent de Naaman. Alors, la tsarat que Naaman avait va se coller sur toi et ta descendance. Et après, il est dit que Arba Nashimayou Metzoraim, ces quatre personnes étaient Metzoraim, donc c'est la tsarat de la semaine d'après, donc de Metzora. Et là, il s'agit de Gehazi ou Banab. Bon, alors, c'est ça ce qui est marqué là. Donc, il y a énormément de questions qui se posent à ce sujet. Et je veux insister sur une écouda très importante. D'abord, que le fait que, si vous lisez bien la Haftara, vous allez voir que au début, Elisha ne sort pas à la rencontre de Naaman. Que Naaman s'étonne. Il dit, il m'a même pas touché, il m'a même pas fait une incantation, il a rien fait. Juste, il envoie quelqu'un pour que je me trempe dans le Jourdain. Et le Jourdain, en vérité, il n'a aucune qualité. L'eau du Jourdain n'a aucune qualité curative. Parce que la réflexion que fait Naaman. Malgré tout, quand il passe, il est devant le Jourdain. Il dit bon, alors il accepte de se tremper. Et là, il guérit. Quand il revient, alors il constate la puissance d'Israël, de Dieu, de Kdusha. Il se convertit. Il propose énormément d'argent à Elisha qui refuse complètement. Comprendre pourquoi il refuse alors que lui, il a besoin d'argent. Il a une yeshiva, il a des élèves, il a besoin de se venir aux besoins de tout ce monde. Il refuse quand même. Et ça fait que Naaman va se convertir. Puis, Gehazi qui est attaché à l'argent, qui aime l'argent, qui n'a pas une qualité humaine et désintéressé. Donc, il court. Et là, on lui dit, toi, la lèpre de Naaman se collera à toi et à tes enfants à jamais. Alors, c'est une rigueur terrible, a priori. Ici, ce que je veux souligner, c'est que il y a dans la conception, quand Naaman va faire cette démarche d'aller voir le prophète, dans sa tête, il pense quoi? Oui, dans sa tête, il pense de manière suivante. C'est que il y a des gens qui ont des pouvoirs sur Terre. Alors, il y a toutes sortes de religions, de croyances, d'individus qui détiennent des savoirs. Il y a des médecins, il y a des intellectuels, il y a des scientifiques, il y a des sorciers, il y a des gens qui sont imams pour les uns, sorciers ou prêtres ou n'importe quoi. Chaque religion, chaque peuple, il a un pouvoir. Il a des gens qui sont les chefs des peuples et qui détiennent un pouvoir quelconque. Alors, il pense que, de la même manière que tous les sorciers, tous les cultes ont un pouvoir, détiennent quelque part un pouvoir et ont un savoir-faire, alors il est possible que le prophète, les juifs aussi, ils sont quelqu'un comme ça. Donc, c'est ça ce qu'il pense au début. Donc, il pense pas il emprunte, il fait une démarche pour que Elisha, le prophète, le guérisse, mais il pense pas qu'il a une domination ou une suprématie particulière, un pouvoir particulier. Il pense que les pouvoirs en ce monde sont partagés et que chaque peuple a quelques propriétés, quelques pouvoirs, quelques... Mais il se passe un événement qui fait que Elisha comprend que La seule vérité, le seul pouvoir, c'est le pouvoir de Elisha et de la Torah. Pourquoi ? Ça, le point essentiel qu'il faut comprendre. La Nekouda, elle est, c'est que, en fait, quand il lui dit « trempe-toi dans le Jourdain ne procure pas la réfoua. C'est juste un moyen que Elisha emploie pour soumettre, pour rabaisser et Naaman. Et la Gemara, elle dit, les Midrashim disent, que qui c'est ce Naaman-là? Il dit, il y a quelques chapitres précédents, il y avait la guerre entre Ahab et Aram. Ils ont fait la guerre. Et avant la guerre, il y a un prophète qui a annoncé à Israël, à tout le monde. Il dit, voilà, sache qu'il y aura la guerre, mais personne ne mourra. Il n'y a qu'un seul qui mourra. Il n'y a que le roi Ahab qui mourra. Comment ça s'est passé? Alors, il y avait des espions. Et Ahab, pour ne pas être tué, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé comme un simple soldat. Donc, les ennemis cherchaient le roi, ils ne le trouvaient pas. Donc, et ce Naaman, qui était un simple soldat, il a tiré une flèche par hasard, sans le vouloir, par inadvertance. Et cette flèche-là, elle est partie se planter chez Ahab, qui était déguisé en simple soldat. Et il en est mort. Et le seul mort qu'il y a eu, c'est lui. Et de ça, c'est de cela que donc, c'est-à-dire Aram, le roi de Aram, il a vu qu'il a gagné, ou la bataille, en fait, il a tué Ahab par grâce à Naaman. Donc, il a nommé chef de l'armée. C'est une petite place, enfin, voilà, il était un simple soldat, est devenu un homme important, donc il s'est lui monté à la tête. Donc, il a eu la gava. Il a eu la suffisance, il s'est senti supérieur. Donc, il a eu la lettre. Donc, et Elisha, il est au courant de ça, il sait ça. Donc, il va lui dire, rabaisse-toi. Dès qu'il se rabaisse, il se trempe, il guérit. Donc, on voit qu'il y a un lien entre le fait de l'orgueil, la lettre, et le fait de se soumettre, de se rabaisser, d'apprendre l'humilité. Alors, il lui sauve la vie. Donc, quelqu'un qui était lépreux, donc la lèpre, c'est une maladie terrible, incurable. Et il est guéri grâce à ce prophète. Donc, il lui doit la vie. Donc, il va lui proposer. Il lui dit, comment je peux te payer? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pas payer. Si quelqu'un, un médecin, il sauve la vie à quelqu'un, il lui doit la vie. Donc, qu'est-ce qu'il va lui payer? Il ne peut pas lui payer. Il peut lui donner des millions, mais ça paye pas, c'est juste une manière de remerciement, de reconnaissance. Et on voit que Elisha, il refuse tout. Mais qu'est-ce qui frappe? Qu'est-ce qui va frapper l'œil, le regard? De quoi va être frappé Naaman? C'est que quand il pose devant Elisha, il ouvre les coffres d'or, d'argent, de pierres précieuses, de vêtements précieux, etc. Il voit que sur Elisha, ça ne fait aucun effet. C'est-à-dire que s'il ouvre une caisse avec des pierres et une caisse avec de l'or, c'est ça identique. Il n'y a aucun effet. Il n'en est pas plus pour autant perturbé. Il ne ressent rien. Il refuse malgré l'insistance. Malgré aussi le fait qu'il lui doit et qu'il aurait pu prendre. Et là, c'est ça la gadloute qu'aperçoit dans Elisha ce Naaman. Il voit qu'à l'opposé de tous les individus, il propose l'or et que l'or ne fait aucun effet. Et à ce sujet, pour comprendre un peu cela, la Gemara de Yerushalmi raconte une histoire. La Gemara raconte que Rabbi Hanan, il avait mal aux dents. Il avait une souffrance. Et il y avait quelqu'un qui savait dans le quartier, quelqu'un qui avait un remède. Donc, il va chez cette femme-là, qui connaît le remède. Il consulte. Donc, il rentre. Elle lui dit, voilà, tiens, Malza, tu prends. Elle lui fait un remède. Et lui dit, tu prends ça, tu vas guérir. Elle dit, si j'ai mal pendant Shabbat. Alors, elle lui dit, oh, tu reviens, je te donne encore une fois. Il dit, mais voilà, comment ça se fait? Shabbat, je ne peux pas venir. Alors, il dit, mais non, alors toi, tu vas voir le secret. Et demain, tu vas ouvrir une Si tu connais mon secret, tu vas me faire dans la concurrence, tu vas ouvrir un cabinet, tu vas consulter toi aussi. Alors, il lui promet que non. Il lui promet que Rabbi Hanan s'engage à lui promettre. Il dit, moi, je suis un rabbin, je ne suis pas un rigolo. Je donne ma parole, il n'y a rien qui se passe. Tu me donnes ça, je garde pour moi. Je ne viendrai pas te faire de la concurrence. Donc, elle est convaincue, elle lui donne le secret. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hanan? Il va à la dracha, à Shabbat, il fait une dracha, il tape sur la teva, il dit, voilà, tout celui qui a mal aux dents, il dévoile le secret du remède. Le lendemain, la bonne femme, là, elle ouvre son cabinet, elle voit qu'il y a moins de monde. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a moins de monde aujourd'hui? Elle dit, parce que bah, le rabbin, il a dévoilé ça à tout le monde. Alors la Gemara, elle dit qu'elle s'est convertie, cette femme-là. Elle s'est convertie. Pourquoi elle s'est convertie? Elle dit, regarde, j'ai vu ce rabbin-là, il avait un moyen de gagner de l'argent. Et il est parti et il en a fait, il a dévoilé un secret, un pouvoir qui lui pouvait lui permettre de gagner, d'avoir le pouvoir sur les autres. Et il a diffusé et il a partagé sans aucun intérêt. Et ça prouve qu'il est sincère. Et c'est pour ça qu'elle s'est convertie. Et c'est ça la même nekouda que Naaman, il va dévoiler chez Elisha. Le Rambam, il dit, qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète, dans Perek Zayin de Ilchot Yesodé à Torah, il dévoile le Rambam que le prophète, il se détache de la matérialité. Il se détache complètement, il se concentre à la méditation, à l'attachement à Hachem, il est mitbonel. Il se détache complètement des havelé à la mazé. Il se consacre à la spiritualité. C'est-à-dire que quand on lui propose, c'est ce qui est exactement ce que Elisha constate quand il voit le personnage de Elisha. Il constate que rien d'autre que la spiritualité l'intéresse. On peut pas le soudoyer, on peut pas le séduire. Il y a rien qui pose un attrait. La matérialité ne l'attire pas. Et ça lui fait aucun effet. Je ne sais pas s'il va faire un effort. Il dit, voilà, bon, je ne veux pas prendre. Mais en réalité, il aurait même voulu prendre l'argent. Mais ça lui dit rien. Et ça, et Naaman, il le voit dans les yeux, dans l'attitude, dans le comportement de Elisha. Et c'est pour ça que Naaman, il est qualifié de guerre tzedek. Maintenant, c'est la ma'ala que Naaman lui-même, parce que lui, Naaman, il vit ce monde-là. Il sait qu'on peut tout acheter, que tous les hommes ne sont que des hommes. Tous les hommes, on peut les soudoyer. Pour mettre le prix, le plus grand au plus petit, on peut l'acheter. Et du plus grand au plus petit, on peut le séduire. Il voit, il constate que ça n'a pas d'effet sur Elisha. Comme il dit Rambam, il est détaché complètement de toute la notion matérielle. Rien, c'est-à-dire, c'est pas qu'il est détaché, ça n'a fait aucun effet sur lui. Ça, c'est la ma'ala de Elisha. Et quand on lit comment Eliyahu HaNavi, il est parti, quand Eliyahu HaNavi, pourquoi il est parti chercher Elisha? Il dit parce que lui, il en avait marre de vivre. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, kahoti, enlève-moi de ce monde. Parce qu'il était incompris. Il n'avait pas avec qui. Il était pourchassé. Il était incompris. Et quand il va le chercher, il lui fait comprendre qu'il doit se détacher totalement de la matérialité. Et lui, Elisha, à ce moment-là, il est en train de labourer le champ. Et la démarche que Elisha va faire pour quitter le monde de normal, des champs, du travail, des préoccupations matérielles de ce monde, c'est justement un détachement total quand on lit les versets là-bas. Et c'est un travail de totalement se détacher complètement de l'attrait de ce monde. Et c'est ça ce que Naaman il va constater. C'est ça ce qu'il voit. Maintenant, quand Gehazi, qui est un bonhomme normal, qui voit alors l'argent, les biens, alors il est attiré tout de suite. Il se dit en plus, je ne vois pas où est le issour. Quel est l'interdit? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi Naaman refuse? Pourquoi Elisha refuse? Et à la première occasion, il y a des gens qui arrivent et qui ont besoin de manger, de s'habiller. Il court après lui. Il dit, voilà mon maître. il a besoin. Et quand il prend, et Naaman lui donne de bon cœur, à ce moment-là, Elisha lui dit que la Tzara'at Naaman, elle se colle sur toi et sa descendance. Pourquoi tellement de rigueur? Et le pshat, c'est que Naaman, Elisha, il dit, moi, comment j'ai guéri? Qu'est-ce que j'ai fait pour guérir Naaman? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une fila. C'est pas moi qui guéris. Moi, j'ai prié Dieu. Et Akash Bokhu lui a octroyé la guérison. Mais j'ai rien fait de particulier pour le guérir. C'est pas moi qui ai guéri. J'ai imploré, j'ai prié. Il dit, maintenant, si Naaman, il va me donner un salaire, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un dermatologue, ou un sorcier, ou je connais des potions magiques, ou bien j'ai un pouvoir quelconque, matériel, physique, en ce moment. Et il me paye pour ça. Il me donne le salaire de ça. Donc, tu vas chez le dermatologue, tu payes ta consultation. C'est ça, il t'a guéri par un moyen qui est naturel, donc tu payes. Et c'est ça ce qu'il lui dit. Il lui dit, si toi, tu as pris l'argent de Naaman, c'est-à-dire que lui, il a cru que je t'ai guéri par un moyen, c'est-à-dire que tu as, toi, ce que moi, j'ai voulu montrer à Naaman, que la guérison, elle est en dehors du contingence matérielle, elle dépasse les possibilités rationnelles de ce monde et de la pratique de ce monde. Ça veut dire, je n'ai pas agi envers lui avec une attitude ou un moyen rationnel. Et alors, j'aurais pu être payé, mais j'ai agi envers lui au-delà de cela. Toi, tu l'as réduit à quelque chose de naturel et de matériel. Donc ça, je ne suis pas capable de faire. Et si tu l'as fait, si tu as pris l'argent, donc là, tu as ramené la maladie à ce qu'elle était. Elle est à un niveau matériel, physique, rationnel. Et ça, je ne suis pas capable de te guérir. Je ne sais pas faire cela. C'est-à-dire, regarde ici, il y a une minyan très amok. Et quand on fait une fila, ou surtout dans la période dans laquelle on vit, alors on fait des ségoulotes, on fait des tfilotes, on fait des tikkunim. Si on se fait payer pour ce tikkunim, pour cette tfilote, ou on reçoit un salaire pour ça, c'est-à-dire que la tfila qui était quelque chose de hors norme, que la réfoua qu'elle produit, elle est hors norme, elle est hors concept matériel, puisqu'il ne s'agit pas de prendre un médicament, il ne s'agit pas de guérir de manière rationnelle, naturelle, médicale, d'un truc normal, dans les normes. Donc c'est hors norme. Si tu prends un salaire, tu le rentres, tu produis quelque chose qui rentre à nouveau dans le monde matériel. Donc tu as trahi en vérité la ségoula que tu as produite, tu l'as trahi. Et c'est pour ça que Naaman, que Gehazi sera l'épreuve. Et ça, c'est d'une importance capitale. Parce que
Michel, on t'entend plus. Ton micro s'est coupé apparemment.
Et les attirances de ce monde, ils sont là. Il peut se faire séduire. Bon, alors, on peut lutter contre ça. On peut lutter contre les séductions de ce monde. Mais arriver à les éliminer totalement, à faire que ça n'a aucun effet sur moi, totalement. C'est-à-dire que quand tu mets un lingot d'or devant Elisha, ou tu mets une pierre, un caillou devant Elisha, c'est le même effet. Pour lui, c'est la même chose. Ça n'a pas d'attrait. Et ça ne laisse aucune trace. C'est-à-dire qu'il a totalement éliminé de lui l'attirance ou l'aspect désirable de tout ce qui est en ce monde désirable et attrayant. C'est ça la marla, c'est la Torah de vérité. Si la Torah, elle transforme un homme. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'il a dit. Quoi? Et Elisha, c'est pas un homme? Il dit oui, Elisha, c'est pas un homme. Elisha, il est devenu un malin. C'est ça la, le Inyan qui est souligné ici et mentionné ici dans cette discussion, dans cet épisode entre où les individus qui sont confrontés dans cette scène, Naaman d'une part, Gehazi et Elisha, ces trois acteurs, ce qui en ressort, c'est que la ma'ala de la Torah, elle transforme un individu de chair et de sang, un individu qui a ses faiblesses, en individu exceptionnel, d'exception. C'est-à-dire, c'est que si on veut, c'est ce que les anges, ils ont constaté chez Avraham Avinu. Ça veut dire que les anges, ils arrivent chez Avraham Avinu et ils mangent. Ils mangent quoi? Du lait et de la viande. Ils disent, mais les anges, ils mangent. Alors, la Gemara dit, ils ont fait semblant. Mais comment chez Rabbeinu, il va monter sur l'Har Sinaï? Les anges ont dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il a dit, je vais recevoir la Torah. Il dit, mais la Torah, c'est pas pour les hommes. Alors, il dit, mais vous n'avez pas mangé le lait et la viande chez Avraham? Alors, il dit, oui, on a mangé. Alors, il dit, si vous avez mangé, vous ne pouvez rien dire contre moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ils ont mangé le lait et la viande. Mais les anges, ils ne mangent pas. Il dit, oui, les anges, ils mangent. Ils mangent quoi? Mais ils ne mangent pas en bas. Ils mangent en haut. Ils mangent les chemabirim achali. Ça veut dire que les anges, ils mangent la manne. Une nourriture spirituelle, raffinée, dépouillée de tous les attraits, les attirances et les plaisirs de ce monde. C'est du manger spirituel. Les anges, chez Abraham, ils ont mangé ça. Ils ont mangé. La table d'Abraham, elle est au niveau des anges, en ce monde. C'est-à-dire qu'ils ont mangé comme ils mangent dans les cieux. Ils mangent eux aussi le mal. Ils ont mangé chez Abraham. Ils ont mangé à chez Abraham le lait et la viande. Et le lait et la viande, les Midrashim disent que la table d'Abraham, le lait et la viande, ils seront permis. Ils sont interdits. Sous l'influence de Aram Hazé. Mais Aram Hava, à Tidavo, ils seront autorisés. Donc, c'est un peu ça ce qui s'est passé avec Elisha. La Torah, elle doit nous... C'est-à-dire la leçon que nous apprenons de là, c'est que la Torah, elle doit nous donner une dimension qui n'est pas une dimension de ce monde. Est-ce que la Torah, elle est donnée aux hommes ou la Torah, elle est donnée aux anges? Alors, prenons l'exemple suivant. Il est dit, le voisin, quelqu'un, il vient, il te dit, s'il te plaît, tu vas voir ton voisin, tu peux me prêter ta voiture, j'ai une course à faire, ou bien ton camion, j'ai un petit déménagement à faire. Et le gars, il ne veut pas prêter. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, la voiture, elle ne marche pas très bien, ou elle est en réparation, ou j'ai des problèmes. Donc, il t'embrouille l'affaire, il ne veut pas te prêter. Bon. Le gars, il s'en va. Quelques jours plus tard, ce même bonhomme qui ne voulait pas prêter, il vient, il demande à son copain, il dit, je ne veux pas venir m'aider, telle chose, tel truc, prête-moi ta tondeuse, pareil. Alors l'autre, il va lui dire deux choses. Ou bien il lui dit, moi je ne te prête pas, tu n'as pas voulu prêter la voiture. Et ça, c'est à source, ça s'appelle ce monde. Ou bien il dit, non, voilà, je te prête, pas comme toi, tu n'as pas voulu me prêter. Ça aussi, c'est à source. Alors, quand il raconte ça dans la rue, un type normal, il dit, moi je ne suis pas un pigeon, moi, d'accord, ne pas lui prêter, c'est assourd, parce que je me venge. Mais lui prêter, lui dire, pas comme toi, mais c'est pour lui apprendre, pour lui faire une leçon. Si c'est assourd, il dit, alors quoi? Je ne suis pas un homme, il faut bien que je réagisse. Il dit, donc, la réaction humaine, normale, c'est de reprocher à l'homme. Il dit, moi, je te prête, d'accord. Je fais un effort, je te prête, mais pas comme toi, tu n'as pas prêté. Ça, c'est assourd. Pourquoi? Parce que la Torah, elle veut que tu sois détaché, que quand on te demande un service, tu le donnes, tu rends ce service sans avoir aucune attache à toi, ce que tu as subi. C'est-à-dire que tu te détaches. C'est-à-dire que là, quand il ne t'a pas prêté, ça n'a fait chez toi aucun effet. C'est ça ce que ça veut dire. De la même manière que quand Naaman y pose devant lui l'or, c'est comme une pierre. Que tu m'as prêté ou que tu ne m'as pas prêté, ça n'a pas d'incidence, ça ne fait aucune trace, je ne réagis pas à cela, ça n'a aucune conséquence dans ma nature, dans mon être. C'est ça la madrigal de la Torah. Et c'est ça ce que Naaman y constate chez Elisha. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est converti. Donc on voit ici la ma'ala de la Torah, jusqu'où la Torah, elle doit nous porter, nous amener, pour que, en nous prenant véritablement conscience de sa dimension, de ce que la Torah, elle exige de nous, et pas utiliser la Torah, c'est-à-dire que c'est comme il y a marqué dans les Pirkei Avot, qui ne fera pas de la Torah une bêche pour creuser, d'ishtamesh bataga halaf, etc. C'est-à-dire que c'est au lieu de servir la Torah, on se sert de la Torah, et ça c'est terrible, parce qu'on va réduire alors la Torah à une dimension, on rend la Torah à une dimension qui est une dimension comme toutes les autres chokhmot. Et tu donnes un cours de maths, alors il faut payer. Tu donnes un cours de tennis, il faut payer. Tu donnes un cours de n'importe quoi, il faut payer. Mais tu donnes un cours de Torah. Torah, c'est pas un cours, c'est pas une chokhma ou du tennis ou un cours de maths ou un cours de physique. C'est quelque chose d'autre. Et la Torah, elle est gratuite. Donc ça veut dire, ah, tu vas pas dire, moi je perds mon temps et moi j'ai mon savoir et comment. C'est ça, c'est une autre dimension. C'est ça, et c'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué ici dans cette histoire-là de Naaman. C'est ça ce qui a marqué que dans cette dimension de Madrega, que la Torah, elle te détache complètement de la Ça, c'est une Madrega extraordinaire. Et c'est ça, la vraie Madrega. Comment on qualifie la Torah? La Torah est Torah Emet. C'est ça le Emet. Et la Torah est une Torah de vie. Donc, quand quelqu'un il va faire ça, il ne va pas être frustré. C'est-à-dire que moi, j'ai une frustration. Il dit, tu ne m'as pas prêté ta voiture, je te prête ma tondeuse, je te prête, moi, pas comme toi. Si je ne dis pas comme toi, alors je suis frustré. C'est-à-dire, je me retiens. Il dit, non, ça ne fait aucun effet. Je suis épanoui entièrement. Tu ne m'as pas prêté. J'accepte, ça ne fait... Je suis dans la quiétude et paisible. Je te donne, je te prête parce que je dois te prêter. Et sans tenir compte en rien de ce que toi tu as agi envers moi. C'est ça la madriga de Avat. Comprendre ce que c'est la madriga de la Torah. Ça, c'est une écouda. Et donc, dans le monde dans lequel on vit, on est perturbé, on est vraiment perturbé par l'aspect que on est séduit, on est tenté d'utiliser la Torah pour se faire une position. On est tenté d'utiliser la Torah pour se faire un nom. On est tenté d'utiliser la Torah, le pouvoir que on peut avoir sur les autres, pour se construire une renommée, etc. Toutes sortes l'argent, le pouvoir, etc., etc. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et à ce sujet, dans le Zohar, c'est marqué, Parashat Bereshit, il a marqué qu'il y a cinq sortes de Erevra, d'Iborim, etc. Et une des sortes, c'est le Rabbi Shlomo Lavi, celui qui a écrit Bar Yochai, il a un pirouche qui n'éteint pas sur le Zohar, qui dit qu'à tel point, il y a des gens qui construisent des synagogues, qui font un Sefer Torah et qui mettent des Keter sur le Sefer Torah pour se faire un nom et une renommée. Ils disent cela. C'est comme ils sont qualifiés de la même qualité, du défaut, de la génération qui a construit la tour de Babel. Comme il est dit là-bas, venez, on va construire une tour, une ville, pour nous faire un nom. Si on se fait pour se faire un nom, alors se faire un nom, se faire une position, se faire une renommée, d'avoir un pouvoir, l'argent, etc. Tout ça, se faire pour soi. Ça, c'est le tarout, l'erreur du Erevrav. Ça, c'est l'erreur du Erevrav. Et donc, on doit être vigilant, ne pas tomber dans ce travers. Et le sens ici de cette paracha de Metzora, d'ailleurs, c'est le Metzora, lui, il doit réfléchir. Donc, il doit être confiné, réfléchir, méditer. Méditer sur quoi? C'est la question. Méditer sur quoi? Le lachon hara, alors on dit il fait du mal, il dit du mal par la parole. Oui, mais c'est pas c'est le, la parole, le lachon hara, la parole c'est une arme. À quoi, avec quoi tu utilises la parole, pourquoi? Alors tu utilises la parole. Ou bien, généralement quand tu dis du mal de l'autre, c'est pour te grandir. Ou bien tu l'utilises pour toi. Le mal, le vrai mal, c'est pas de détruire l'autre uniquement. C'est aussi causer du tort à l'autre, c'est mal. Mais le écart du metzora, c'est de se croire, de s'arroger le droit de. Arroger le droit de, c'est de prendre une arme pour se faire une place. C'est ça, c'est-à-dire que le metzora, en réalité, il voudrait prendre la place de l'autre. Il voudrait prendre une place qui ne lui revient pas. Il voudrait s'accaparer quelque chose. C'est pour ça qu'il est frappé de la lèpre. Et il sera confiné. Comment il guérit? Il guérit parce qu'il doit rester en silence, il doit rester silencieux. Personne ne vient le voir. Il est reclus. À l'extérieur, il doit se rabaisser et il doit se détacher de ça. Il doit laisser la place libre. C'est l'idée qui est marquée ici. Et donc, il faut beaucoup méditer sur la situation dans laquelle on est. Il faut beaucoup méditer, beaucoup réfléchir. La Gemara, elle dit, dans ma Maseret Shabbat, dans la même idée, une Gemara très intéressante. J'ai travaillé cette semaine un peu sur cette Gemara-là, qui a un rapport avec le Perkei Avot. Il est marqué dans les Perkei Avot, deuxième chapitre, à la Mishnah 15. Alors, Rabbi Shimon ben Nathanel, il dit, soyez vigilants quand vous lisez le schéma et la tuila. Quand tu pries, ne fais pas ta prière comme une obligation, mais implore, une imploration. Et ne sois pas rachat à tes yeux. Donc là, il te dit qu'il faut faire la prière correctement, il faut faire mot à mot, il faut faire les kavanot, etc. Bon, des trucs que tout le monde connaît, c'est marqué dans la lacha, dans le Shulchan Aruch. Zera Simpson, dans les Perkei Avot, il rapporte à la fin de son développement, il rapporte une Gemara dans la Maseret Shabbat très intéressante. Il dit, la Gemara, elle dit, Rabba Baravuna, quand il faisait la prière, alors il s'habillait de son caleçon, donc sûrement qu'ils avaient les pantalons à moitié, donc il mettait des chausses, il voulait pas prier les jambes nues, donc il se chaussait. Il dit, il faut se préparer à se passer, quand l'éclate l'orecha Israël, tu dois te préparer, te vêtir pour aller vers Akadosh Baruch Hu quand tu pries. Rava, lui, au contraire, Rava, il avait le vêtement, il était grand rabbin, il avait un vêtement, une cape, il a enlevé sa cape, et il pliait les bras, et il pliait les mains, comme un serviteur devant son maître. Ke'avda kamemare. Donc il y a ici deux manières, ou bien on s'habille bien, on se met des vêtements glorifiants, pour se présenter devant Hachem, ou bien on se met comme un pauvre. On enlève les vêtements. De manière. Alors on peut comprendre. Ou bien je veux dire que la tfila, c'est comme la avodat kohanim. Alors les kohanim, pour aller faire le service à avodat Hachem, ils doivent mettre des vêtements de kohuna, qui sont des vêtements de gloire et de splendeur. Donc il faut que tu t'habilles de ce vêtement-là pour faire la prière. Ou bien je dis non, il dit comme Abraham Avinu, il priait comme un malheureux, qui est lâche, il ne demande rien. Il ne met pas en avant ses mérites, comme un serviteur. Et Eved Hachem, sans rien. La Gemara continue, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, Amar Ravashi, Hazina le Rav Kahana, qui chacha Rav Yahna. Ravashi, il a dit, je dis Rav Kahana, que quand ça ne va pas dans le monde, il y a des souffrances, des tourments, etc. Quand ça ne va pas du tout dans le monde, les gens, ils souffrent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enlève avec sa déglimé ou par un chéadé au matché. Il enlevait sa veste, il enlevait ses vêtements, il se déshabillait, il pliait les bras et il priait comme un serviteur devant son maître. Ça veut dire que le vêtement ici, il symbolise la fonction, la splendeur, le pouvoir. Alors si par exemple, nous sommes chacun à notre niveau, nous venons. Alors, il y a Imaginons quelqu'un, imaginons que lui, Rav Kahana, il est grand rabbin. Il a le dayan de la ville, le grand rabbin de la ville. Quand il a le vêtement de ce, qui de la fonction. Alors, quand tout va mal, il enlève ce vêtement-là, il prie comme un simple individu, un seul serviteur. Il ne peut pas mettre en avant le fait de sa fonction, ou bien le fait de son mérite. Il en va, puisque ça ne va pas du tout. Après, il rajoute, et qu'est-ce qu'il dit ? Mais quand tout va bien, alors il mettait le vêtement. Il y avait seulement Berama, quand il y avait la paix, donc il priait avec le vêtement. On voit ici quelque chose de terrible. Donc la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'est-ce qui ça va mal, on doit se défaire, on doit se défaire, déshabiller, laisser tomber tous les titres, tout ce qui pourrait nous faire croire qu'on a une valeur quelconque. Tout ce qui a l'apparence, mettre les mérites, les pseudo-mérites que nous avons, voilà, que nous n'avons pas, puisque nous sommes en souffrance. Donc, on n'en a pas de mérite. Et prier de manière comme quelqu'un qui n'a rien. Ça, c'est la première démarche qui a marqué ici. C'est ça, l'idée essentielle. Mais quand tout va bien, alors, si tout va bien, Baruch HaShem, il y a la prospérité, la santé, la quiétude, la tranquillité, l'abondance dans le monde. Alors, ça veut dire qu'on a du mérite. Si on a du mérite, alors il faut employer justement ce mérite-là pour perpétuer cela. C'est ce qui est marqué ici. C'est très intéressant de voir que selon la situation, nous devons savoir apprendre à nous tenir dans la prière. C'est-à-dire ça montre la kavana, l'intention que nous devons exprimer essentiellement dans notre prière, pour arranger la situation. Et si on n'y parvient pas, c'est que notre prière, elle est quelque part, on n'a pas compris la manière dont il faut prier. Il y a autre chose que je voudrais dire. On m'a envoyé il y a quelques jours une vidéo où il y a un chiot où quelqu'un parle du Ramchal de Mahamar Agioula. Alors, je voudrais dire que le bonhomme qui lit, il lit un passage du Ramchal et il interprète. Ça veut dire que mon chiot dit, je vais vous dire un truc terrible, c'est marqué dans le Ramchal que les synagogues vont fermer, à la fin des temps, les synagogues vont fermer et il va être construit le temple. Donc, quand il lit l'histoire là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le gars, il a lu un texte et il dit autre chose. Il ne dit pas le texte, il dit autre chose. Il interprète. Et ça n'a aucun rapport avec ça, n'a aucun rapport, aucun lien avec la situation. Le Ramchal, il ne parle pas du tout de ça. Et je voudrais mettre en garde, ça veut dire porter à votre attention que chacun et soit vigilant, que tout celui qui dit un cours, tout celui qui prétend, il ne faut pas juger les gens sur leur apparence, ni sur leur renommée, ni sur leur fonction, rien du tout. Il faut juger les gens sur ce qu'ils disent. Alors, il dit quelque chose, on va aller vérifier ce qu'il dit. On va voir ce qui s'est marqué, ce qu'il dit. Et s'il dit une bêtise, alors il dit une bêtise. Peu importe qui il est. On juge pas la personne, on juge les paroles qu'il exprime. Soyez vigilants. Non, c'est facile. Les gens aujourd'hui, tout le monde cherche à faire de la communication. On présente les choses avec des émotions et les gens ils présentent leur thèse, ce qu'ils veulent dire, en préparant le public à dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, avant qu'on commence, on sait que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est terrible, c'est exactement ça. Donc, les gens sont déjà convaincus avant qu'ils entendent de quoi il s'agit. Quand on lit, on voit que c'est autre chose. Donc, il y a ici une manipulation et c'est pas honnête intellectuellement. Et l'une des qualités absolues, indispensables pour la Torah, c'est l'honnêteté intellectuelle. On peut pas dire, si je veux dire moi un chidouche, alors je dis c'est moi qui dis un chidouche. C'est ma propre sensibilité, c'est moi qui interprète. Et je dis pas ce qu'il y a marqué dans le livre, il y a quelque chose, il y a marqué un texte et moi je dis autre chose. Et c'est ça, ce n'est pas honnête intellectuellement. Et c'est vraiment aucun rapport. C'est presque dit n'importe quoi. Donc je voudrais vous dire, mais soyez vigilants, n'acceptez pas tout ce qu'on dit. Et deuxièmement, quelqu'un qui dit quelque chose, il doit donner des comptes. Il n'y a pas dans le monde des shiurim, de la Torah, on peut dire tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on ne doit pas donner des comptes sur les paroles que l'on dit? Avant, les gens, ils écrivaient, rares étaient ceux qui écrivaient les livres. C'est quand on écrit, il faut vérifier chaque chose. Donc, pas écrire n'importe quoi. Donc, l'écriture, elle reste. Donc, il faut vérifier chaque chose. Aujourd'hui, on dirait des hommes politiques. On dirait un homme politique qui, pendant la campagne électorale du premier ministre, il dit une chose et le lendemain, il dit le contraire. Il a promis une chose, il fait le contraire. Donc, c'est rien, ça, c'est pas grave. La Torah, on peut dire une chose et son contraire, on peut dire une chose et garantir, certifier, et promettre, et je ne sais trop quoi. Et rien qui se passe. Et c'est faux. Et rien qui se passe. Est-ce que les gens ne doivent pas donner des comptes? Est-ce qu'on ne les juge pas sur pièce? Est-ce qu'il n'y a pas un genre de faute professionnelle? Est-ce qu'il n'y a aucune sanction? Personne ne prend ses responsabilités, personne n'est sanctionné sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Et ça pose problème. Où est la Torah de vérité? Ça, le Emet. Le Emet, c'est d'assumer. On se trompe, on dit on s'est trompé. Mais on passe pas et on passe à autre chose. Et on dit une chose et son contraire. Alors je vous dis, le public, il doit être vigilant. Le public, il doit apprendre à critiquer. La critique, c'est pas juste pour attaquer la personne, c'est pour vérifier. Vérifier. Tout ce que tu dis doit être vérifié. Je veux les références. Et je pose des questions. Et je contredis. Et c'est de la contradiction. Si les gens, ils sont intouchables de par leur fonction, de par leur position, de par leur renommée, alors on ne pourra jamais les attaquer. On ne pourra jamais les contredire. Alors si on ne contredit pas, il n'y a plus de Torah. La Torah, c'est la confrontation des idées et la mise devant les réalités. On met celui qui s'est trompé devant ses réalités. Il a dit ça, il s'est trompé. Reprends-toi, fais amende honorable. Et c'est essentiel. Sans ça, la Torah est, comme le pensait Naaman avant sa conversion, comme toutes les autres chokhmot, on peut dire que le médicament de Raoult, il vaut rien ou il vaut, on peut dire tout et son contraire. On peut dire que ça sert à rien les masques, et après on change d'avis, etc. On peut dire tout et son contraire. Ça n'engage à rien. On ne donnera pas d'engagement. Alors c'est quoi? Est-ce que la Torah, elle est réduite, rabaissée, ramenée à une attitude humaine habituelle? Ou bien la Torah, elle nécessite une hauteur d'esprit, de droiture, d'honnêteté intellectuelle, de vérité absolue? C'est ça la question. Et ça, c'est le public qui est responsable. La Emouna, je répète tout le temps, la Emouna, c'est pas la crédulité, la naïveté, la bêtise. C'est pas croire n'importe quoi et n'importe comment. La Emouna, c'est le Chokhma. C'est une Chokhma, la Emouna. C'est analyser, réfléchir, comprendre, approfondir. C'est ça la Emouna. La Emouna, plus je pose des questions, et plus je comprends les choses. J'approfondis. Mais c'est pas faire croire aux gens des sornettes et des histoires à dormir debout. C'est prendre les gens pour les imbéciles. C'est réduire la Torah, prendre le public pour les imbéciles et faire profaner Gdolat HaTorah et Kedushata. C'est le contraire de ce qu'il a fait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il voulait montrer qu'il n'y a pas une lettre ou un mot ou un élément de Torah qui est inutile, qui est en vain. Alors, on dit que Michel Maître Rabbi Akiva a battu le commandant de Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui disait ça. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Les gens, qu'est-ce que c'est la personne de la Torah? La Torah, on peut dire ce qu'on veut. Le principal, c'est que pendant une semaine, deux semaines, on ne parle que de moi. Je fais le buzz dans les YouTube et tout ça, et on parle que de moi. Et après, j'en passe à autre chose. Donc, c'est exactement ça. Il ne faut pas faire de la Torah une couronne pour te grandir. Moi, celui qui utilise la couronne, il est halaf. Ne fais pas une bêche pour avoir du pouvoir. Mais il faut crier sur ça. Je suis consterné, attristé, c'est-à-dire de quoi pleurer. D'abord du niveau intellectuel des cours qui se diffusent, et deuxièmement, de la profanation, Hiloul Hashem, la Hiloul HaTorah, Kedusha. Ça, c'est l'essentiel, c'est ce que je voulais dire. Voilà.
Enfin, je ne sais pas, d'aborder un petit peu le date et vous note, de dire rapidement ce qui a été dit. Parce que...
D'abord,
ce
n'est pas date et vous note, c'est Mahamar HaGeoula.
Mahamar HaGeoula, oui.
Donc, moi, j'ai vu lui ça il y a longtemps. Bon, j'ai cherché, je ne voyais pas son truc là, bon, j'ai cherché. Donc, j'ai envoyé ce jour-là à mon fils qui est spécialiste de Mahamar HaGeoula, il a étudié en langue là, Jean Carrère. Et il a écouté, il m'a dit lui aussi, au bout de 5 minutes, il m'appelle, il me dit, Bilboul est mort. Il dit, aucun rapport avec la choucroute. Bon, c'est aucun rapport. Donc lui, il dit comme ça. Le Rambam, il veut te dire que quand il y a eu la galoute, donc il y a, avant la galoute, il y a un halon, il y a une fenêtre ou un char, il y a un shefa de galoute qui se fait directement de manière puissante dans le monde. C'est le Betamigdash est là. Quand le Betamigdash est détruit, alors cette porte-là, elle se ferme et elle s'ouvre depuis Khalunot. Ça veut dire que c'est que le chef, hein, il est avec mesure. C'est ce qu'il dit le Hari. Le Hari dit que du temps du Betamigdash, il y avait un zivouk continuel perpétuel, il y avait un chef, hein, qui se renouvelait, innovait de manière continue. Il dit, maintenant que le Betamigdash, il est détruit. Donc, ce chef-là, il passe par des orifices. Et ces orifices-là, il doit faire un zivouk baïlonim qui est de manière ponctuelle. Tous les jours, il y a un peu ou deux zivouks. Donc, le chef-là, il descend de manière ponctuelle. Ça n'a rien à voir avec la synagogue et le Betamigdash. Il dit, le Betamigdash, c'est dans les cieux, il y avait un chef-là direct. Il faut lire d'abord au plus haut dans le Mahamar HaGeoula, il explique c'est quoi les fenêtres, etc. Il dit, tu as mis ma main, alors, comme il est marqué dans Echa, ici, il est mis noir. Et dans Echa, ça veut dire que, au moment du Harban, le chef-là infini qui est symbolisé par la main droite, il est mis derrière. Donc, comment le chef-là, il passe? Alors, le monde, il va être détruit. Donc, il y a des ouvertures. Ça vient, c'est diffusé avec parcimonie, de manière ponctuelle, un peu là, selon le minimum, c'est ce qu'on appelle. Et j'ai expliqué ça quelque part dans mon bouquin. C'est quand il n'y a pas de zivouk. Imaginons que le père et la mère, tout va bien. Donc, ils se parlent directement. Mon chéri, tu peux faire les cours. Mon amour, tu peux faire ça. Ils sont d'accord, ils sont en harmonie, ils sont en symbiose, ils se parlent directement. Mais si, ils se bagarrent, ils ne se parlent plus. Alors, comment ça se passe? Il faut faire les courses, il faut aller à la banque. Alors, la mère a dit au fils, tu peux dire à ton père d'aller à la banque? Tu peux dire à ton père d'aller faire un truc? Et l'autre, il dit, tu peux dire à ta mère de faire telle et telle opération? Donc, il passe par l'intermédiaire. C'est-à-dire que il se donne le dos. La relation, elle est plus directe, elle est rigoureuse, elle est réduite au strict minimum pour que les choses continuent à exister. C'est comme dans la relation de couple. C'est ça le kavana des ouvertures, les grandes ouvertures. Alors on est en face directe avec quelqu'un de jour au cours, on se parle face à face. Quand il y a le galout, alors c'est métis minaharati. Alors il dit à son fils, il va dire à ta mère, qu'elle doit passer à la banque. Ben, c'est ça, tu passes par l'intermédiaire. C'est pas direct, le rapport, il n'est pas direct. C'est ça le concept. Mais il faut qu'il y ait toujours ce rapport. Il faut qu'il y ait toujours ce chef-là. Il faut que la relation entre le père et la mère continue à se faire. Alors, comment ça va? Quand ce n'est pas direct, alors ça passe par l'intermédiaire. Dis à ta mère, dis à ton père. Ou il écrit un papier, il le colle sur le frigidaire. Il dit, s'il te plaît, fais ça, s'il te plaît, fais ça. Ils ne parlent plus ensemble. Mais Mais le message, il passe, parce que il faut que le monde, il continue à exister. C'est ça les ouvertures. Les ouvertures, ça signifie qu'il y a des orifices pour que le rapport, il se passe, pas direct, mais même par intermédiaire, mais il faut qu'il continue. Il y a un minimum de rapport, de shefa qui doit se diffuser dans le monde pour que la vie, elle puisse se perpétuer. C'est ça le sens de ce qui est marqué là-bas.
Super, Michel. Impeccable. Alors, il y a Yitzhak qui avait... Yitzhak, le micro est ouvert.
Bonjour, Michel.
Comment tu vas ? Ça va ?
Ça va, Baruch Hashem. Dis-moi, tu as dit tout à l'heure que la Metsora, c'était la Shunara.
Non, moi, je n'ai pas dit que c'est la Shunara. J'ai dit qu'il a parlé du mal.
Il a parlé du mal, d'accord.
Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir dit du mal. C'est d'avoir voulu se grandir.
En lui faisant du mal. En lui faisant du mal.
Comment je peux te grandir ? Si je dis du mal à quelqu'un.
Je rabaisse quelqu'un pour moi essayer de me grandir.
Je me fais une place.
D'accord.
Est-ce que je m'en fous, moi, que tu as le mal ou pas ? Mais moi, je veux la place. Si je ne dis rien, je dis des gentillesses, personne ne va m'écouter. Alors, je vais dire les méchancetés, comme ça, on va m'écouter. Donc, comment ? C'est un moyen de se grandir, se faire une place.
D'accord.
Et deuxièmement, même si tu, même à part ça, c'est se sentir, prendre le droit de rabaisser l'autre. Ça aussi, c'est une gava. Déjà, même pour rien, de dire du mal à l'autre, déjà, c'est une gava. Et qui tu es, toi, pour dire du mal à l'autre? Déjà, ça. Le rabaisser, lui causer du tort, etc. Et ça veut dire que tu te sens supérieur. Ça, c'est ça, la gava. La gava, c'est la suffisance. C'est-à-dire la suffisance, l'effronterie, la hauteur, être hautain, etc. Ne même pas regarder vers le bas. Comme il dit, monsieur l'Algérie, le type, il marche, il y a des types qui sont tellement importants que quand ils marchent, on dirait que tout le corps, c'est du plan. Chaque pas, on dirait, ah, qui bouge le pied et la main. Et quand ils se retournent, s'ils te regardent, ils s'arrêtent pour me regarder. J'ai été frappé par la grâce. Et il a daigné te regarder. Un type, il m'a dit, d'accord, il était dans le 17e, il voyait un type très important, il est passé, il était devant. Il a tourné la tête, il m'a dit, il m'a regardé, on dirait que c'était transparent. Transparent, il m'a dit.
Donc ça arrive souvent, Michel, ça arrive souvent, ça. Ça arrive
comment
souvent. Ça arrive souvent, ça, Michel.
Oui, c'est-à-dire tellement que tu ne veux pas que je te regarde, qu'on dirait un chat. Je te regarde, mais qui tu es un chat. Un chat, un arbre, un rien, c'est rien. C'est rien.
D'accord.
Et ça, c'est ça la gava. C'est ça le Metsora. C'est ça le Naaman, il est devenu tout d'un coup chef de l'armée. Il était un troufion, il est devenu général en chef. Généralissime. Et il s'est envolé. Il s'est envolé tout de suite, il est allé. Pourquoi ? Parce qu'il doit se rabaisser. Comprendre qu'il est rien, en vérité. Tu sais pas que tu es rien, toi ? Tu sais très bien que tu es rien. Regarde, bravo l'autre. On a vu aujourd'hui, dans cette maladie-là, les gens les plus importants, comme les flux anodins, misérables, ils ont été malades. La maladie, elle ne fait pas de distinction. Bah, voilà, c'est incroyable. C'est ça, apprendre. On est enfermé à la maison, mais on dirait, on est en train d'avoir le cerveau qui dans tous les sens, tu vois. C'est, on n'est plus des clients, on est parce qu'on est. Quel gars on peut avoir. C'est ça, il comprends, mon ami, qu'il a dit Naaman, il lui a mis l'or. Elisha, il a vu des pierres. Ça n'a fait aucun effet. Pour moi, c'est des pierres. C'est ça la force du MS. Ça ne fait aucun effet sur nous.
Alors, deuxièmement, Michel.
C'est ça la Torah. Et tout ça, il a dit, si la Torah, elle transforme un homme, ça veut dire un animal, il le transforme comme un malheur, c'est Torah Temet. Si celui-là, qui est un homme comme moi, il devient comme il est là, c'est un malheur. Ça, c'est la Torah, elle n'est pas comme les autres enfants. La Torah, elle est Torah aimée. C'est ça, le maître, la Torah. Le type, il est détaché, il a besoin de rien, il est apaisé, il est tranquille, il est serein.
Oui, mais il faut du temps pour tout ça, Michel.
Il n'est jamais frustré. C'est un équilibre total, en harmonie avec lui et Dieu. C'est ça, la gâte de la Torah.
C'est un travail, il faut du temps pour tout ça.
Mais ça, on doit apprendre des fondamentaux. C'est ça, Torah, c'est ça qu'il faut atteindre. Mais si on ne te dit pas au début que c'est ça qu'il faut atteindre, tu ne sauras jamais qu'il faut l'atteindre.
Exact, exact.
C'est ça qu'il faut atteindre. Voilà que c'est devant le travail. Nous, on est à des milliards de kilomètres de ça. Mais voilà. Si on ne sait pas ça, si chaque fois qu'on fait quelque chose, on a un intérêt, si chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on veut gagner de l'oseille, si chaque fois qu'on fait quelque chose, je te rends service, ah mais gratuit, je te rends service, s'il te plaît, ça existe quelqu'un aujourd'hui qui rend service gratuit, c'est bien fou. Le militantisme. Avant, il y avait dans la communauté militantisme. Les gens, ils donnaient leur argent, leur temps, ils faisaient pour le bien général. Après, c'est devenu tout du business, tout intérêt. J'ai un intérêt, etc. Je gère des millions, mais je ne touche pas un rond. Je gère une caisse de tzedaka qui brasse des milliards et je touche gratuit et de manière désintéressée, complètement pas. Au contraire, j'ajoute mon argent. C'est ça. Les chemins s'amènent. J'étudie la Torah et chaque fois que je dis un jour, il faut prendre un billet.
Bon, et Michel, lorsqu'on...
Je comprends que les gens, ils doivent vivre tout ça. C'est... Ouais, donc, mais je ne dis pas que c'est une cita. Dis-moi qu'on est dans une situation où il faut trouver des moyens de subsistance. Mais, c'est-à-dire, va vendre des cacahuètes, va faire du business.
Et un Kolelman, alors comment tu le vois?
Kolelman, il a un contrat. Kolelman, tu fais un contrat avec quelqu'un, il est associé avec lui dans le limou. C'est comme il sera réservé, c'est autre chose. C'est pas la...
Pourquoi? Il touche un salaire, Michel.
Pas, je te donne un cours, tu me donnes 100 balles. C'est pas ça. Collègement, c'est un autre concept. C'est un concept d'association. Mais c'est pas, je te donne un cours, donne-moi 100 balles. Je viens, ma prestation. Je donne un truc, tu fais un cours, c'est une prestation. C'est un saut. Tu fais un plombier, moi. Je t'appelle le plombier, il va te prendre le déplacement. Il va te prendre pour changer le robinet. Mais moi, je suis un plombier. Alors, tu dois vivre. Alors, il faut trouver des moyens de subsistance. Là, je suis d'accord. Alors, à midi, il faut trouver des moyens de subsistance. Mais c'est... Bon, maintenant, dans la lacha, il y a des terrines. C'est sûr que dans la lacha, il y a des terrines. Mais il faut réfléchir à ça. Jusqu'où on peut aller dans le éther? C'est combien la prestation? C'est combien la valeur? Tout ça, parce qu'on franchit et on dérape. Tu comprends? C'est ce qu'il dit Rambam, on dérape. Tu vois que Naaman, il aurait pu prendre l'argent. Pourquoi il ne prend pas? Il ne veut pas prendre l'argent. Il se brûle avec l'argent. Et l'autre, il a pris, il s'est brûlé. Toute sa vie, il était lépreux. C'est ça qu'il faut faire attention.
Bon, lorsqu'on était à Prague, Michel,
Oui.
Toutes les synagogues à Prague, elles ont été soit très endommagées ou soit la plupart détruites, sauf une seule, celle du Ramchal. C'était la seule qui était intacte.
Le Maran.
Quand il était intact, quand je te dis intact, ça veut dire que moi, personnellement, je me suis assis où il était assis, lui. Il y avait encore les boulons et tout ça. Alors, j'ai dit, mais comment ça se fait que cette synagogue n'a pas été touchée, rien n'a été fait, ni rien du tout. On m'a répondu, on m'a dit que celui qui parlait ici, on le faisait sortir. C'est-à-dire que personne ne parlait pendant la tefila. Est-ce que, entre ce qu'on m'a dit à Prague et le Metzora, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui, qu'on est privé de synagogue?
C'est évident, ça, frérot, c'est évident.
Je sais pas, je demande.
Moi, une fois, j'ai rêvé. Je veux dire, une fois, j'ai pensé à longtemps. Il dit, je vais gagner au loto, il y avait 100 millions au loto à gagner. Il dit, moi, si je gagne au loto 100 millions, j'ai une idée de ce que je fais. Je construis une synagogue, chaque prière, les shem mitzvah. De sorte que quand tu rentres dans la synagogue, alors, on me dit, là, tu n'as pas envie de parler. Tiens, la Kidoucha, le type, il est pris de tremblement. La prière, elle est parfaite. C'est sûr que quand tu parles, tu rentres à la synagogue, on discute, on parle. C'est le Zohar est dit, c'est très grave. Je ne vais pas dire ce qu'il dit le Zohar, mais c'est très grave. C'est sûr que ça pollue la tuila, etc. C'est sûr. Mais c'est évident. C'est évident. Même de tout temps, j'ai essayé de faire des années de pas parler le minimum pour la tula. Garder mes mots de parler que pour la tula. Les premiers mots pour la tula. C'est sûr, vous savez. Vous faites attention, ça, la parole, tout ça. C'est très important. Même parler en vain, il y a marqué. Il y a marqué Kol Adam al Adam le Piou. Ils disent qu'un homme, il peut faire des milliers de mitzvot par jour. Ça ne fait pas une parole qu'il a dit pour rien. Il ne dit même pas que c'est une parole à sourd, une parole inutile. Kol Adam, Kol Amal Adam le Piou, c'est marqué un passou dans Yom. Il dit le Zohar, le Midrash, le Gand, il ramène, même le Tania, il ramène ça. Il dit que si un homme, il a été toute la journée, il a fait des milliers de mitzvot dans la journée, ça ne paye pas, ça ne rembourse pas une parole en vain qu'il a sorti de sa bouche. Pour te dire, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Même à Saouda Chichit, quand des fois ça déborde un peu.
Tu rétoras. Non, en vain. Quelqu'un a dit des paroles.
Non, mais des fois, à Saouda Chichit, on parle un peu de. Ça arrive qu'on puisse parler un peu de politique, un peu de trucs, avant de démarrer le
travail
et tout ça.
Oui, je comprends, ça arrive. Mais on ne parle pas en vain. Quelqu'un dit une parole inutile.
Ah, d'accord.
Quelqu'un dit un truc qui ne sert à rien. Il dit une parole pour rien. Il parle pour rien. C'est. Il faut payer ça. C'est très grave. Enfin, ben.
Voilà.
Nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est sûr que Shabbat, il faut faire du vrai chol, il ne faut pas parler du vrai chol, du vrai chol de la synagogue, et compagnie, toutes les choses qui sont interdites. Hein.
Berthaud, ton micro est ouvert, Berthaud.
Il est ouvert. Ah, ok. Ouais. Michel, tu as dit tout à l'heure. Le virus, il marche dans la rue, il ne fait attention à personne. Ouais. Un milliardaire, un petit, un moyen, un religieux, un pas religieux. Et où est la sélection voulue par Hachem dans tout ça?
Qu'est-ce que tu as dit?
Tu as compris ce que j'ai dit?
Pas entendu.
Le virus, il se balade.
Oui, mais c'est la question.
La question, où est la sélection d'Hachem de prendre celui-là ou de celui-là et pas celui-là et pas celui-là, puisque le virus il prend tout le monde, donc c'est une décision d'Hachem qui a fait que ces gens-là sont dans un endroit où il peut tout prendre.
Que j'ai dit ça déjà, que quand normalement s'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est qu'il a fait un jugement, on lui a fait le jugement. Je dis, mais quand il y a le virus, la peste, l'épidémie, là où tu te trouves, il te faut un miracle pour être sauvé. Même si, imagine, il y a deux qui marchent dans la rue. Il y a Menachamayim 1, 2, on a décrété que le serpent, il le tue. Donc, on apporte un serpent pour tuer le mec de droite. Mais malheureusement, il y a un mec qui est là. Donc, le serpent, il tue le mec de droite. Pour ça, il est venu. Mais il se retrouve maintenant devant le gars de gauche. Alors, est-ce que le serpent, il va tuer le gars de gauche? Il dit oui, il va le tuer, parce que, mais il n'est pas venu pour lui. Il dit, mais non, parce que le gars de gauche, pour être sauvé, il lui faut un miracle. Si pour le gars de gauche, on n'aurait pas apporté le serpent. Mais donc, il est là. Alors, si toi, tu veux être sauvé, il te faut un miracle. Et donc, ça, c'est très difficile. Donc, les gens, ils n'ont pas, c'est les gens qui n'ont pas fait attention. Alors, ils ont été contaminés. C'est terrible. C'est vrai que c'est pas, peut-être qu'ils méritaient pas. Peut-être qu'il mérite pas. Mais pour être sauvé de cette maladie-là, chimiquement, il faut beaucoup de truands. C'est évident.
Mais c'est pas un choix d'Hachem.
Voilà que c'est un choix d'Hachem.
Alors?
C'est difficile. Le gars, il est là devant le danger. Il s'est mis en danger. Il est marqué, tu passes pas sous un mur qui va s'écrouler.
Ouais, mais si c'est pas son heure.
Il va mourir.
Mais et si c'est pas son heure.
À Rosh Hashanah, on n'a pas fixé que je meurs, mais je peux passer.
Voilà.
Rosh Hashanah a dit, toi, tu joues, tu meurs, d'accord?
Ouais.
Rosh Hashanah, on t'a pris, on t'a dit, toi, Rosh Hashanah, tu vis. Alors vas-y, je peux courir sous le mur. Il y a un mur branlant, je passe.
Non, et même si tu es à côté du gars, que le serpent a mordu.
Tu veux quoi? Tu veux un miracle? Il faut avoir beaucoup de triotes. C'est pas obligé de
faire. Ah, mais il est écrit qu'il va rien t'arriver. Il ne doit rien t'arriver.
Non. Ça dépend si tu es en une situation normale. Mais si tu te mets en danger, tu ne te prends pas des précautions, tu peux mourir. Même si ce n'était pas prévu pour toi.
Et le contraire?
Quoi le contraire?
C'est-à-dire qu'il y a une xéra que si tu te mets en danger, et tu ne te mets pas du tout en danger.
Alors tu vas être sauvé.
Tu ne pas de la tuer, etc. Est-ce que ça va arriver quand même?
Tu vas être sauvé.
Comment?
Tu seras sauvé. Tu ne seras pas en danger. Si tu te caches, comment tu vas être en danger? Si tu te caches, tu restes caché, tu ne sors pas, tu ne seras pas en danger.
Peut-être. Il est écrit que tu dois y passer par cette maladie, par ce virus?
Je ne sais rien, moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit. Mais s'il y a un danger, ne seront touchés que ceux qui ne sont pas pris des précautions.
Oui.
Tout. Les autres, on ne sait pas qu'est-ce qui a été fixé pour mourir ou vivre. On ne sait pas. Donc, on doit tout mettre en œuvre pour nous préserver.
D'accord.
Parce que quand la Torah a dit « Bismane sinitan reshut la mashrit » et non, Abdil, quand le mashrit, l'ange destructeur, on lui donne le droit de tuer, alors tout ce qu'il y a sur son passage, il le tue. Il ne fait pas de différence, tzadik, rachat, tout ça. Il tue tout le monde.
Donc, même toi, si ce n'est pas son heure.
Même si ce n'est pas son heure, voilà. Alors, toi, cache-toi, donc tu ne restes pas dans la rue. C'est ça qu'à Pessah, ils étaient dans la maison. Pourquoi le sort de Pessah, ils ne sont pas sortis?
Alors là, tu m'apprends quelque chose, là. Ah, c'est extraordinaire ce que tu me dis. On n'est pas à l'abri, alors, ça y est.
Comment?
On n'est pas à l'abri.
On n'est jamais à l'abri, madame. Comment à l'abri?
C'est-à-dire que il n'est pas écrit qu'il doit arriver un truc cette année à Rosh Hashanah. Pour moi, même si tu te mets en danger, il est écrit qu'il ne doit rien t'arriver, il ne t'arrivera rien.
Non, s'il y a l'épidémie, s'il y a un danger.
Que l'épidémie. L'épidémie. Ou une maladie.
Quand on a dit qu'il n'y a rien, c'est dans les situations normales. Normal, il n'y a rien. Mais s'il y a l'épidémie, il y a un danger et tu ne prends pas des précautions, va dire que c'est dangereux.
Mais Hachem, il sait qu'il va y avoir une épidémie.
Non, là, c'est dans les situations. Le dîme de Rosh Hashanah, c'est les situations normales. Le din de l'épidémie.
Ah, tu vas prendre quelque chose là, ou alors je sais pas quoi penser.
Je dis, le Rashbash, il dit ça. J'ai fait cette sougade dans Rosh Hashanah.
Ouais.
Le Rashbash, il pose la question là-bas, la grande, elle dit, quand il y a l'épidémie, sauve-toi. Il dit, je comprends pas. Il pose la question. Il dit, si à Rosh Hashanah, fixé que je meurs.
Voilà.
Même si je me sauve, je vais mourir. Et si à Rosh Hashanah, fixé que je vis, alors il m'arrivera rien. Alors il te dit non. Rosh Hashanah, c'est une situation normale, habituelle. Le cas d'épidémie, c'est sûr que si c'est pas inclus dans Rosh Hashanah, si tu prends pas des précautions, tu peux être frappé.
Ouais. Excuse-moi d'insister. À Rosh Hashanah, il est marqué qu'il va rien t'arriver cette année-là. D'accord?
Non, c'est une situation normale.
Mais il n'y a pas de situation normale ou pas normale.
Il y a une situation normale.
Il va rien t'arriver, il va rien t'arriver.
Là, la COVID, c'est normal.
Alors, j'ai pas
compris. Il y a les virus et les machins, c'est normal.
Ça, c'est
enfermé.
Mais Hachem a prévu qu'il allait avoir une épidémie et autres. Donc, si tu dis que tu vas passer l'année tranquille, donc il sait qu'il va avoir l'épidémie.
Il a pas pris ça, le dîme. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, il peut avoir un dîme sur quelqu'un qui vit. Il ne prend pas les précautions du corona, il meurt.
Alors, il faut que tu nous fasses un cours sur ça un jour. Hein.
Mais oui, mais de toutes les façons, Mihaila Michel, si je peux me permettre, c'est comme si quelqu'un à Rosh Hashanah, on lui dit, tu vas vivre. Je sais pas, je dis un truc. Tu vas vivre. Toi, tu vas vivre toute l'année. Le mec, il se jette sous une voiture. Ou l'Alechem, il se suicide. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Oui, je sais pas, qu'il doit vivre. Non. C'est Hachem qui a décidé, c'est pas toi et moi.
Ouais, mais si,
c'est pas toi et moi.
Non, mais
il peut pas. Hachem a décidé. Hachem a décidé.
Oui, d'accord, mais Michel, il dit bien qu'il a décidé dans une situation normale.
Une situation normale.
Sans se mettre en danger, ni rien du tout, ni rien. Maintenant, si moi, si quelqu'un, se jette dans une voiture,
J'entends ce que tu dis. Berton.
Oui.
Si par exemple, on dit, toi, tu vas vivre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas sous le train.
Non. Hein,
tu te mets sur les rails, tu dis, le train, il ne va arriver rien. Tu vois, il va t'écraser ou tu vas...
Ça y est, tu m'as répondu.
C'est exactement ça. C'est la même chose, c'est exagéré, c'est automatique, mais c'est ça. Tu prends pas les précautions, tu te préserves pas. C'est sortir dans la rue sans confinement, avec les masques et compagnie. C'est comme si tu te mets sous le rail du train.
Ou alors même si quelqu'un qui a des médicaments à prendre, un diabétique, très fort, il prend plus les médicaments, il prend plus rien.
Oui, exactement.
Exactement. Bon. J'ai bien compris la notion de en temps normal.
Exactement. Dans la logique des choses. Très bien. Donc, il n'y a pas de notion temps normal et temps houleux avec épidémie, guerre, bombardement, attentat. Donc, il y a deux choses différentes.
Danger, truc en dehors, situation non normale et non anormale. Il y a tremblement de terre. Si tu prends, il y a des situations dangereuses et tu ne pas en. Te préserve pas, tu meurs.
Ah bon, ok, d'accord. Michel, j'ai appris quelque chose.
Michel, mais
voilà, j'ai bien fait de venir, Michel.
Michel, mais là, une dernière question. Tout à l'heure, tu avais parlé des habits. Ça veut dire que tu avais dit qu'on mettait des habits bien lorsque, par exemple, on était en bonne situation, on était renforcé et tout ça. Aujourd'hui, quand on est dans une situation difficile, et qu'on est confiné, on peut faire.
Il a dit, il enlève l'habit, enlève les habits, il se présente devant Dieu comme un vanitier.
Alors, est-ce que je peux faire la tfila
l'habit de minuit.
Alors, est-ce que je peux faire la tfila avec le short et les
bottes? Tu t'habilles avec un beau costume comme le Premier ministre ou comme le balayeur. Tu comprends? Comment tu rentres dans le palais du roi? Est-ce que tu rentres
costume, cravate, demande audience costume, cravate, costume,
alors, cravate. Tu mets le costume de Premier ministre, le chapeau, des liens, tout ça, protocole, ou bien je viens comme vient le femme de ménage. Il rentre, il ouvre la porte, il tape, il ouvre la porte, il balaye. Et même s'il y a le roi, il rentre, il sort.
Excuse-moi.
Et quand tu rentres, pourquoi le roi, il n'est pas fâché du valet la femme de ménage qui balaye, qui refait le lit. Il s'en fout.
Marie, tu m'entends?
Je viens devant Dieu comme le valet et la femme de ménage. Donc j'enlève le costume, je mets un truc comme un. Je rentre discrètement, comme un homme simple, c'est ça? Enlever le costume quand tout va mal, il faut plier comme un serviteur, un malheureux, un pauvre, le plier, enlever les costumes, etc.
Tu mets le costume. Ça veut dire que je peux faire en ce moment la tefila en short avec les tongs?
Voilà!
T'as compris?
En ce moment, étant donné qu'on est dans une situation difficile, est-ce que je peux faire ma tefila en tong et avec mon short jusqu'au genou?
Non, il faut mieux, non.
Non.
Il faut s'habiller minimum, cabot. Mais est-ce que je veux mettre les faux habits, le costume, la tiare et compagnie, c'est ça? C'est ça ce qu'il a dit? Comment? Il faut venir comme un serviteur devant son maître avec la soumission et la. Et
mais avec la des chaussures, avec des chaussures, avec des chaussures. Pas en tong. Avec des chaussures, il faut.
Mais tu peux faire en tong.
Bon, ok. Ok, Michel.
Bien, mais vaut mieux mettre des chaussures, faire un peu cavole. Bon, et David, il est où?
Mais je suis là, Michel,
Ok.
Ben, écoute, Razak, Michel, très bien, merci.
Bravo, Michel.
Toutes ces informations,
tous ces enseignements. Je suis là parce que j'ai un rendez-vous, on verra.
D'accord.
Ah non, il faut sortir masqué, Michel. Il faut sortir
tu
masqué.
Me diras.
Ouais, je sors masqué.
Ok, on reste en contact. Allez,
ouais. Razak, Michel, attends.
Ouais.
Michel.
Oui.
Pousse-toi, je vais éternuer. Pousse-toi, je vais tousser.
Que des brachot chez vous, Shabbat Shalom.
Vas-y.
Amen, amen.
Shabbat shalom, shabbat shalom.
Hazak Michel, Hazak David, Hazak tout le monde.